Chapitre 9. Quitter Malden. Une brise printanière piquante soufflait au visage de Perrine. Normalement, elle aurait dû charrier l'odeur du pollen, de la rosée matinale et de la terre retournée par les jeunes pousses qui émergeaient à l'air libre. Le parfum du renouveau et de la renaissance. Hélas, tout ce que Perrine sentait, c'était la puanteur du sang et de la mort. Il tourna le dos à la brise, s'agenouilla et inspecta les roues du chariot. Un solide véhicule en noyer qui semblait en très bon état. Mais avec tout équipement venant de Malden, il fallait se montrer prudent. S'il méprisait moins les bœufs et les chariots comparés aux chevaux, les chats-idos, comme tous les aïels, préféraient voyager léger. Du coup, il n'avait entretenu aucun des véhicules tractés. Durant son inspection, Perrine en avait repéré plusieurs truffés de défauts cachés.
« Au suivant !»
lança-t-il, tout en contrôlant le premier moyeu. Son invitation s'adressait à la foule de gens qui attendaient pour s'entretenir avec lui.
« Monseigneur !»
dit une voix basse et rauque familière. Celle de Gerard Arganda, premier capitaine du Gealdan. Un type qui sentait l'armure soigneusement huilée.
Je dois insister sur la nécessité de lever le camp. Au moins, permets-moi de partir avec ma reine.
La reine en question était Aliandre, souveraine du Gealdan. Perrine continua à étudier le moyeu. En mécanique et en menuiserie, il était moins à l'aise que devant une forge. Mais son père avait appris à tous les fils à Ibarra l'art de repérer un défaut sur un chariot. Réparer avant de partir, martelait-il, valait mieux que tomber en panne à mi-chemin de sa destination. Perrine passa une main sur le bois noirci par le temps. Le grain était encore très visible, et la recherche de fissures sur les quatre roues ne donna aucun résultat.
« Seigneur, »
insista Arganda.
« Nous partirons tous ensemble, »
lâcha Perrine.
« C'est un ordre, Arganda. Sinon, les réfugiés penseront qu'on les abandonne. »
Les réfugiés. Plus de 100 000 âmes dont il fallait s'occuper. 100 000. Beaucoup plus que l'entière population du territoire de Deux-Rivières. Et Perrine avait pour mission de nourrir toutes ses bouches. Les chariots. Peu de gens mesuraient l'importance d'un bon chariot. S'allongeant sur le dos, le jeune seigneur s'apprêta à contrôler les axes. Dans sa position, il vit nettement le ciel plombé, le plus souvent occulté par le mur d'enceinte de Malden. Pour l'extrême nord de l'Altara, cette ville était très grande. À dire vrai, avec sa muraille et ses tours, elle ressemblait plus à une forteresse qu'à une cité. Jusqu'à la veille, le terrain qui l'entourait appartenait aux Chaïdo. Mais c'était terminé. Les Aïels renégats étaient en déroute, la plupart morts ou en fuite. Grâce à une alliance avec les Séanchaniens, Perrine avait pu libérer tous les prisonniers. Les Chaïdo lui avaient laissé deux présents. L'odeur de la mort dans l'air et 100 000 malheureux à protéger. Même s'il était heureux d'avoir libéré ces gens, le raid sur Malden, pour Perrine, avait eu un tout autre objectif, sauver Feil. D'autres aïels avançaient vers la position du jeune homme, mais ils avaient ralenti puis dressé un camp. Depuis, ils ne faisaient pas mine de fondre sur Malden. Des aïels en fuite avaient-ils prévenu qu'une grande armée les attendait? Une force capable d'écraser les Chaïdo malgré leur matriarche? Quoi qu'il en soit, ce nouveau groupe, dans le dos de Perrine, semblait aussi peu disposé à ferrailler que lui. Du coup, il avait du temps. Un peu, au moins. Arganda attendait toujours. Son plastron brillant comme un petit soleil, il avait calé son casque sous son bras. Ce costaud n'était pas un officier de salon, mais un fils du peuple qui s'était élevé à la force du poignet. En règle générale, il se battait très bien et exécutait les ordres.
« Je ne céderai pas sur ce point, Arganda !»
dit Perrine, en se glissant sous le chariot.
« Alors, utilisons des portails, au moins !»
S'agenouillant, Arganda se pencha pour observer le dessous du véhicule.
« Les Achamans sont morts de fatigue, »
marmonna Perrine.
« Tu le sais très bien. »«
Pour un portail, oui. Mais s'il s'agissait de transférer un petit groupe, ma reine est épuisée au sortir de sa captivité. Tu ne prétends quand même pas la faire marcher !»
Les réfugiés sont aussi en bout de course. Aliandre aura un cheval, mais elle partira quand nous nous mettrons en route, pas avant. Veuille la lumière que ce soit bientôt.
Arganda capitula sans un mot. Alors que Perrine passait les doigts le long d'un axe, il se redressa. D'un seul coup d'œil, le mari de Fail pouvait repérer un défaut sur du bois. Il tenait quand même à toucher sa surface, parce que c'était bien plus fiable. Aux endroits où cette matière première faiblissait, on sentait toujours un nœud ou une fissure. Savoir mesurer le danger était une affaire d'expert. À part ça, un bois de qualité ne vous réservait jamais de mauvaises surprises. Contrairement aux hommes et à Perrine lui-même. Il serra les dents, refusant de penser à ça. Pour détourner sa propre attention, il devait travailler, travailler et travailler encore. Une bonne chose, puisqu'il adorait ça. Ces derniers temps, il en avait eu trop souvent l'occasion.
« Suivant !»
cria-t-il dessous le chariot.
« Seigneur, nous devons attaquer !»
rugit une voix tonitruante. Perrine sortit la tête dessous le chariot et ferma les yeux. Bertheyn Galen, seigneur capitaine de la garde ailée, était à Mayenne ce qu'Argandat était au Gealdan. Cette similitude oubliée, les deux hommes se révélaient aussi différents que possible. Dans sa position, Perrine avait une vue imprenable sur les bottes de Bertheyn et leurs éperons en forme de faucon.
« Seigneur !»
insista Bertheyn.
« Une bonne charge de la garde ailée disperserait ces tracas, Yagel, j'en suis sûr. En ville, nous leur avons donné une sacrée leçon. »
Avec l'aide des Sanchaniens,
rappela Perrine. En ayant terminé avec l'axe de derrière, il s'attaqua à celui de devant. Pour ce travail, il portait sa vieille veste toute tachée. Pour ça, Fail lui ferait un sermon. N'était-il pas censé montrer au monde qu'il avait tout d'un seigneur? Pour autant, ça ne justifiait pas de se rouler dans l'herbe avec une veste étincelante. Fail aurait refusé qu'il se traîne dans la gadoue pour commencer. Une main sur l'axe avant, Perrine hésita, son esprit dérivant sur les beaux cheveux noirs de sa femme. Et ce n'est si typique du Saldaea. Pour lui, elle était tout ce qui comptait. L'objet fascinant de son amour, ni plus ni moins. Au bout du compte, il avait réussi à la sauver. Alors, pourquoi avait-il le sentiment que tout allait presque aussi mal qu'avant? Il aurait dû se réjouir, être extatique, s'enivrer de soulagement. Pendant de longs jours, il s'était inquiété à chaque seconde. À présent, alors qu'elle était en sécurité, rien ne semblait satisfaisant. Enfin, quelque chose comme ça. C'était difficile à expliquer. Lumière. Rien ne pouvait donc fonctionner comme on avait prévu? Glissant une main dans sa poche, Perrine voulut toucher la corde où il avait fait tant de nœuds. Mais ce pense-bête de son malheur, il l'avait jeté.
Assez de rumination. Fail est revenu. Bientôt, tout sera comme avant. N'est-ce pas?
D'accord,
enchaîna Bertheyn.
Le départ des Sehanchaniens pourrait être problématique en cas d'assaut. Mais ces aïels sont moins nombreux que ceux que nous avons écrabouillés. Sinon, pourquoi n'envoies-tu pas un messager à cette générale, qui serait ravie de se battre de nouveau à nos côtés?
Perrine se força à revenir au moment présent. Enfin, ces grotesques problèmes privés n'intéressaient personne en ce moment, pas même lui. Il fallait que ces chariots daignent rouler sans se disloquer. Tout le reste était secondaire. L'axe avant se révéla lui aussi en bon état. Son intervention terminée, le jeune seigneur se glissa à l'air libre. Même si les trois plumes de son casque avaient tendance à le grandir, Bertheyn était de taille moyenne. Un bandeau rouge sur un œil, celui-là Perrine savait où il l'avait perdu, il portait un plastron étincelant. Comme s'il pensait que le silence de Perrine était un assentiment muet, Bertheyn semblait excité à l'idée d'une charge héroïque. Une fois debout, Perrine épousta son pantalon marron très ordinaire.
« Nous partons !»
dit-il, en levant une main pour étouffer dans l'œuf les protestations de Bertheyn.
« Ici, nous avons vaincu, mais les matriarches étaient bourrés de fourches racines, et nous avions des damans dans notre camp. Épuisés, souvent blessés, nous avons récupéré Fail. Plus rien ne justifie de se battre, donc on file !»
Bertheyn parut très mécontent, mais il hocha la tête, se détourna et, pataugeant dans la boue, alla rejoindre ses hommes, déjà en selle. Perrine jeta un coup d'œil aux gens qui attendaient toujours de parler avec lui. Jadis, ses séances lui pesaient. Du temps perdu, puisque 9 demandeurs sur 10 connaissaient déjà sa réponse. Ce n'était pas si simple. Ses hommes et ses femmes voulaient l'entendre de sa bouche, et c'était très important. De plus, leurs questions lui faisaient oublier l'étrange tension qu'il éprouvait à l'idée d'avoir sauvé Fail. Quand il gagna le prochain chariot, ses interlocuteurs potentiels le suivirent. La caravane comptait une cinquantaine de véhicules. Les premiers étaient chargés de biens récupérés à Malden. Ceux du milieu attendaient de l'être, et il ne lui en restait plus que deux à inspecter. Si tout allait bien, Perrine entendait être assez loin de la ville avant le coucher du soleil. Une distance de sécurité, probablement. Sauf si les nouveaux Shaido, ivres de vengeance, décidaient de poursuivre les vainqueurs. Avec la taille de la colonne, un aveugle aurait été capable de repérer les fugitifs. Le soleil déclinait déjà derrière les nuages. Lumière. Organiser le départ des réfugiés et des différentes factions militaires était un cauchemar. Après ça, avancer serait un jeu d'enfant. Le camp des Shaido était dévasté. Après les avoir vidés, les hommes de Perrine avaient démonté plusieurs tentes pour les emporter. Désormais dégagé, l'ancien site du camp, labouré comme au moment des semailles, était jonché de débris. En dignes aïeuls, les Shaido avaient préféré s'installer hors de la ville plutôt qu'à l'intérieur. Un peuple étrange, il fallait en convenir. Qui aurait tourné le dos à un bon lit, sans parler d'une position plus aisément défendable, pour résider sous des tentes? Mais les aïeuls détestaient les villes. À Malden, la plupart des bâtiments avaient été pillés et brûlés dès le premier assaut des Shaido. Les portes arrachées, les fenêtres brisées, des objets jetés dans les rues puis écrasés par les Gaishain qui allaient et venaient pour charrier de l'eau. Si près du départ, des gens fouillaient encore la cité et le camp ennemi, en quête de biens à emporter. Quand viendrait le moment de voyager, la colonne devrait abandonner les véhicules, car Grady n'était pas capable d'ouvrir un portail assez grand pour les laisser passer. Mais jusque-là, ces chariots seraient d'une aide précieuse. Les bœufs aussi, bien entendu. Quelqu'un d'autre les passait en revue, s'assurant qu'ils seraient assez en forme pour tirer les véhicules. Les Shaido avaient laissé filer une bonne partie des chevaux de Malden. Une honte, ça. Mais on devait faire avec ce qu'on avait. Perrine commença par inspecter le bras du nouveau chariot.
« Suivant !»
lança-t-il.
« Seigneur !» dit une voix grinçante. « Je crois que c'est moi, le suivant. »
Perrine tourna la tête vers Seban Balwer, son secrétaire. Le visage tout desséché, cet homme aux épaules voûtées avait un petit quelque chose d'un vautour perché sur une branche. Même si sa veste et son pantalon n'étaient pas attachés, Perrine s'attendait à en voir monter de la poussière chaque fois qu'il faisait un pas. Comme un vieux livre, le secrétaire sentait un peu le renfermer.
« Balwer !»
Perrine vérifia la qualité du bois puis des fixations pour harnais.
« Je vous croyais en train de parler aux prisonniers. »
« Je l'ai fait, et c'est un sacré travail. Mais un doute m'est venu. Étiez-vous obligé de livrer aux Seanchaniens toutes les matriarches douées pour le pouvoir ?»
Perrine dévisagea son secrétaire au relent de renfermer. Les matriarches capables de canaliser avaient presque toutes été assommées par la fourche racine. Mais alors qu'elles étaient encore inconscientes, les Seanchaniens en avaient hérité, et ils en feraient ce qu'ils voudraient. Cette décision n'avait rien fait pour la popularité de Perrine parmi ses aïeuls, mais il refusait que ses femmes le traquent pour se venger.
« Je ne vois pas ce que j'en aurais fait, »
répondit-il à Balwer.
« Mais bien, seigneur, nous aurions pu apprendre des choses très intéressantes. Par exemple, il semble que bien des Shaido aient honte du comportement de leur tribu. Les matriarches elles-mêmes étaient divisées. De plus, elles ont commercé avec de très étranges individus qui leur proposaient des artefacts datant de l'âge des légendes, des gens qui pouvaient ouvrir un portail.
« Des rejetés, »
dit Perrine, en s'agenouillant pour examiner une roue avant.
« Je crains que nous ne puissions pas déterminer lesquels, d'autant plus qu'ils devaient être déguisés. »
Du coin de l'œil, Perrine vit Balwer faire la moue suite à ce commentaire.
« Vous n'êtes pas d'accord ?»
demanda Perrine.
C'est exact, seigneur. Selon moi, les artefacts en question étaient très... suspects. Les aïeuls se sont fait duper, mais je ne vois pas pour quelle raison. Cela dit, si nous disposions d'un peu plus de temps pour fouiller la ville...
Que la lumière me brûle !
Tempêta intérieurement Perrine. Combien de gens allaient lui demander quelque chose, en sachant qu'ils n'obtiendraient rien ? Le moyeu de cette roue ne lui semblant pas très fiable, il se glissa sous le chariot pour mieux l'étudier.
« Balwer, nous savons déjà que les rejetés sont nos ennemis. Quand Rand arrivera pour les emprisonner de nouveau, ou quelque chose dans ce genre, ils ne l'accueilleront pas à bras ouverts. »
Des couleurs tourbillonnèrent. Puirand apparut devant l'œil mental du jeune seigneur. Comme d'habitude, il chassa l'image de sa tête. Chaque fois qu'il pensait à Rand ou à Matt, c'était la même histoire.
« De plus, »
continua-t-il,
« je ne vois pas ce que vous voudriez que je fasse. Les Gaishan Shaido viendront avec nous. Les promises en ont capturé des tas. Donc vous pourrez les interroger. Sinon, nous partons d'ici. »
Compris, seigneur. Je regrette seulement que nous ayons perdu toutes ces matriarches. Selon mon expérience, parmi les Aiels, ce sont les moins... bornés.
Les Seanchanien les voulaient, rappela Perrine. Et ils les ont eus. Je ne laisserai pas Edara me harceler sur ce point. Ce qui est fait, est fait. Que voulez-vous de moi, Maître Balwer?
Nous pourrions m'envoyer un message avec des questions pour les matriarches quand elles se réveilleront. Je...
Le secrétaire s'interrompit, puis se baissa pour mieux voir Perrine.
Seigneur, ce n'est pas très... commode. Ne pouvons-nous pas trouver quelqu'un d'autre pour inspecter les chariots?
Tous les autres experts sont trop fatigués ou trop occupés. Je veux que tous les réfugiés soient en train d'attendre dans les camps quand nous donnerons l'ordre de partir. Quant à nos soldats, ils passent la ville au peigne fin, en quête de nourriture. Chaque poignée de grain peut tout changer. Tellement de réserves en pourri. Ce travail est parfait pour moi, car je dois être à un endroit où les gens peuvent me trouver.
Une obligation pesante, certes, mais que le jeune homme acceptait désormais.
Je comprends, seigneur, mais vous pourriez sûrement être accessible sans vous traîner sous des chariots.
C'est une tâche que je peux accomplir pendant qu'on me parle. Vous n'avez pas besoin de mes bras, Maître Balwer, mais de mon cerveau. Et il vous dit d'oublier les Aiels.
Mais...
je ne peux plus rien faire,
insista Perrine en regardant Balwer entre les rayons de la roue.
Nous allons partir vers le nord. J'en ai fini avec les Shaido. Qu'ils brûlent sur pied si ça les amuse.
Balwer fit de nouveau la moue. Dans son odeur, Perrine reconnut un vague agacement.
Comme il vous plaira,
dit-il avec un bref salut de la tête. Sur ces mots, il se retira. Perrine sortit de sous le chariot et fit signe à une jeune femme. En robe crasseuse et godillot usé, elle attendait près de la rangée de chariots.
« Va chercher Lincoln !»
lui dit Perrine.
« Dis-lui de jeter un coup d'œil à cette roue, surtout au moyeu. Il n'est pas assez bien fixé, et il risque de s'arracher. »
La jeune femme fila au pas de course. Lincoln était un maître charpentier qui avait eu la mauvaise idée d'aller voir des parents à Kairien au moment de l'attaque des Shaido. De ces événements, il gardait une hantise. En toute logique, il aurait dû inspecter les chariots, mais dans son état, ça n'aurait pas été raisonnable. Cela dit, pour une réparation, il semblait encore compétent. De plus, quand il agissait, Perrine avait le sentiment d'aller mieux, d'oublier ses problèmes, en somme. Les chariots étaient faciles à réparer, pas comme les gens. Se retournant, Perrine balaya du regard le camp où brûlait encore de petits feux. Au milieu des débris, Fail se dirigeait vers la ville après avoir chargé une partie de ses fidèles de sonder la zone. Quelle femme magnifique! Sa beauté ne se limitait pas à son visage ou à sa silhouette. Elle était présente dans sa façon de diriger les gens et de savoir immédiatement ce qu'il fallait faire. En d'autres termes, le genre d'intelligence qui manquait à son mari. Il n'était pas idiot, mais assez lent d'esprit, il fallait le reconnaître. En revanche, avec les autres, il se révélait nul, à l'inverse de Matt ou de Rand. Fail lui avait montré qu'il n'était pas indispensable de savoir gérer les gens, y compris les femmes, tant qu'il pourrait se faire comprendre d'une seule personne. Bref, tant qu'il parvenait à communiquer avec elle, on se fichait qu'il ait du mal avec les autres. Aujourd'hui, il ne trouvait pas les mots, même avec elle. Il s'inquiétait de ce qu'elle avait subi durant sa captivité, mais les diverses possibilités ne le torturaient pas. Elle le mettait en rage, mais il savait que rien n'était sa faute. Pour survivre, on faisait ce qui s'imposait. Et il respectait Fail pour sa force.
Et me voilà encore en train de réfléchir. Travailler, travailler, encore et toujours. Suivant!
Cria-t-il en s'agenouillant pour continuer à inspecter le chariot.
Si je n'avais vu que ta mine déconfite, mon gars,
dit une voix chaleureuse,
je supposerais que nous avons perdu.
Perrine tourna la tête, très surpris. Dans la petite foule qui attendait pour lui parler, il n'avait pas repéré Tam Altor. La file d'attente diminuait, mais il restait encore des messagers et des assistants. Derrière tout ce petit monde, le solide berger attendait, appuyé à son bâton. Désormais, ses cheveux étaient uniformément argentés. À une époque, se souvint Perrine, il semblait plus noir que la nuit. Ça ne datait pas d'hier. Un temps où il n'avait encore jamais vu une forge ou une enclume. Les doigts du jeune homme volèrent vers le marteau glissé à son ceinturon. Une arme qu'il avait préférée à sa hache. Une bonne décision, même s'il avait encore perdu le contrôle de lui-même pendant la bataille de Malden. Était-ce ça qui le tracassait? Ou l'euphorie qu'il avait éprouvée pendant la boucherie?
Quel bon vent t'amène, Tam?
Un simple rapport, seigneur. Les gars de Deux Rivières sont prêts au départ, chacun avec deux tentes sur le dos, au cas où. L'eau de la ville n'étant pas potable à cause de la fourche racine, j'ai envoyé des hommes empuisés dans l'aqueduc, là où elle est encore claire. Pour apporter les tonneaux, un chariot ne serait pas de trop.
Réquisitionne celui que tu veux,
fit Perrine en souriant. Enfin quelqu'un qui prenait des initiatives intelligentes.
Dis à nos gars que j'espère les renvoyer très vite à la maison. Dès que Grady et Néald seront assez rétablis pour ouvrir un portail, en fait. Hélas, ça risque de prendre un moment.
Ils seront contents, seigneur,
assura Tam. Qu'il était étrange de l'entendre utiliser ce titre.
Cela dit, puis-je te parler en privé un moment?
Perrine acquiesça. Du coin de l'œil, il vit que Lincoln approchait de sa démarche prudicante. Entraînant Tam, il le guida jusqu'à la muraille de Malden. Là, il serait tranquille. Au pied du mur d'enceinte, de la mousse poussait, beaucoup plus vivace et brillante que la végétation atone qui se montrait de ci de là. Ce printemps, à part la mousse, rien ne semblait vouloir être luxuriant.
Que t'arrive-t-il, Tam?
Le père de Rand massa son menton couvert d'une barbe de 3 jours grisonnante. Ces derniers jours, Perrine avait poussé ses hommes au maximum, ne leur laissant pas le temps de se raser.
Les gars s'interrogent, Perrine,
dit Tam, un peu moins protocolaire puisqu'ils étaient seuls.
Quand tu parlais de renoncer à Manéthéren, tu étais sérieux?
Oui. Cet étendard ne nous a valu que des problèmes. Les Séanchaniens et tous les autres doivent le savoir. Je ne suis pas un roi.
Pourtant, une reine est un vassal.
Perrine réfléchit à la meilleure réponse possible. Naguère, à cause de sa pondération, des gens l'avaient pris pour un crétin. Aujourd'hui, il tenait sa lenteur pour un signe de sa vivacité intellectuelle. Quelle différence pouvait faire un titre ronflant précédant un nom?
Moi, je pense que tu as raison,
dit Tam, une vraie surprise.
Rebaptisé de Rivière Manéthéren aurait déplu aux Séanchaniens et à la reine d'Andorre. Ça aurait signifié que tu veux davantage que notre territoire. Peut-être même tout ce que Manéthéren dominait jadis.
Perrine secoua la tête.
Je ne veux rien conquérir du tout, Tam. Ni même régner sur ce que je suis censé avoir conquis. Dès qu'Elaine sera sur le trône, j'espère qu'elle enverra un vrai gouverneur à Deux Rivières. Alors, nous en finirons avec le seigneur Perrine, et tout rentrera dans l'ordre.
Et la reine Aliandre?
Elle jurera allégeance à Elaine. Ou à Rand, si elle préfère. On dirait qu'il aime annexer des royaumes. Comme un gosse qui joue à la marelle.
Tam parut perplexe et inquiet. Perrine détourna le regard. Les choses auraient dû être bien plus simples. Oui, elles auraient dû.
Qu'y a-t-il?
Je pensais que tu avais dépassé tout ça.
Rien n'a changé depuis l'époque antérieure à la capture de Fail. Par exemple, je n'aime pas plus cet étendard à la tête de loup. Lui aussi, il est peut-être temps de le mettre en berne.
Mon garçon, les gens croient en cet étendard,
dit Tam d'une voix égale. S'il haussait rarement le ton, quelque chose en lui incitait les autres à l'écouter, parce qu'il parlait souvent d'or, bien entendu.
J'ai voulu te parler pour te prévenir. Si tu offres une chance aux gars de rentrer chez eux, quelques-uns la saisiront, mais pas beaucoup. La plupart ont juré de te suivre jusqu'au mont Shagelghoul. Ils savent que l'ultime bataille est pour bientôt. Qui en douterait avec les signes qui s'accumulent? Ces gars ne veulent pas rester en arrière, et moi non plus.
Dans l'odeur de Tam, Perrine capta une détermination d'acier.
Nous verrons,
dit-il.
Nous verrons.
Il renvoya Tam, lui ordonnant de réquisitionner un chariot pour transporter les tonneaux d'eau. Les soldats obéiraient. Après tout, si bizarre que ça parut, Tam était le premier capitaine du seigneur Perrine. Sur le passé du père de Rand, le jeune homme savait peu de choses, à part qu'il avait participé à la guerre des Aiel. En d'autres termes, il ferraillait avant la naissance de l'homme qui lui donnait à présent des ordres. Tous les gars étaient d'accord pour obéir à Perrine, Ils entendaient continuer. N'avaient-ils donc rien appris? Désireux de rester seul, jeune seigneur s'adossa au mur, heureux de rester dans l'ombre. En cet instant, il comprit en partie ce qui le tourmentait. Pas en totalité, mais assez pour ne pas s'étonner d'être toujours mal à l'aise, malgré le retour de Fail. Ces derniers temps, il n'avait pas été un bon chef. Même quand Fail était là pour le guider, il ne s'était jamais montré très brillant, mais pendant son absence, il avait frôlé la nullité. Obsédé par sa femme, il avait ignoré les ordres de Rand et tout le reste. Mais qu'aurait dû faire un homme digne de ce nom quand on enlevait sa femme? Au bout du compte, il l'avait sauvé, mais en abandonnant tout le monde. À cause de lui, des hommes de valeur étaient morts, des combattants qui lui faisaient confiance. Debout dans l'ombre, il se souvint du moment, la veille, où un allié de longue date était tombé sous les flèches des Shaido, le cœur empoisonné par Masséma. Aram comptait parmi les frères d'armes qu'il avait négligés lors de sa quête pour sauver Fail, et l'ancien Zingaro aurait mérité mieux que ça.
« Je n'aurais jamais dû le laisser prendre une épée. »
Certes, mais ce n'était pas le moment de penser à ça. Un luxe qu'il ne pouvait pas s'offrir avec tant de pain sur la planche. Il s'écarta du mur, en route pour le dernier chariot à vérifier.
« Suivant !»
cria-t-il en se remettant au travail. Aravin Carnel avança. La magicienne ne portait plus sa tenue de Gaishine, mais une robe verte toute simple et pas propre, récupérée dans les décombres. Bien qu'elle fût rondelette, son visage portait les stigmates de la captivité. Cela dit, sa détermination faisait plaisir à voir. Très douée pour l'organisation, elle devait avoir des ascendants nobles. Ça se sentait dans son odeur. Et dans sa façon de donner des ordres, comme si elle avait fait ça toute sa vie. Un miracle que ses qualités aient survécu à la captivité. En s'agenouillant devant une roue, Perrine s'étonna encore que Fail l'ait choisi pour superviser les réfugiés. Pourquoi pas un de ses jeunes fidèles, plutôt? Si ces snobinards pouvaient être agaçants, il se révélait bien plus compétent qu'il l'aurait cru.
« Monseigneur !»
fit Aravin, sa révérence pleine de grâce étayant la thèse de Perrine sur ses origines.
« J'ai fini de préparer les gens au départ. »«
Si vite ?»
s'étonna Perrine en relevant les yeux de sa roue.
« C'était moins difficile que prévu, seigneur. Je leur ai ordonné de se regrouper par nationalité, puis par lieu de naissance. Sans surprise, il y a une majorité de Kerriéniens, suivis par des Altariens et des Amadiciens. Notons aussi quelques Domani et Tarabonais, et une poignée de frontaliers et de Théariens.
Combien sont en état de marcher un jour ou deux sans un passage dans les chariots?
L'immense majorité, seigneur. Les vieux et les malades ont été chassés de la ville après sa conquête par les Shaido. Ces gens sont habitués à travailler dur. Certes, ils sont épuisés, mais aucun n'a envie de traîner ici alors que d'autres Shaido campent à moins d'une demi-journée de marche.
Parfait,
dit Perrine.
Qu'ils se mettent en route sur le champ.
« Sur le champ ?»
répéta Aravin, surprise.
« Oui. Je veux les voir sur la route, en chemin vers le nord, aussi vite que possible. Aliandre et sa garde leur ouvriront le passage. »
Ce qui s'appelait faire d'une pierre deux coups. Arganda n'aurait plus de raison de râler, et les réfugiés ne traîneraient plus dans les pattes de personne. Pour la collecte des vivres, les promis seraient bien plus efficaces. De toute façon, le passage au peigne fin se terminait. Les brebis de Perrine devraient survivre sur les routes quelques semaines. Après, un portail les conduirait dans un pays plus sûr, Andorre peut-être, ou le Kerrien. Les Shaido inquiétaient Perrine. S'ils décidaient d'attaquer, mieux valait filer et leur épargner cette tentation. Aravin s'inclina puis fila exécuter ses ordres. Perrine remercia la lumière d'avoir dans ses rangs une deuxième personne qui s'abstenait de le bombarder de questions ou de mettre en doute ses consignes. Après avoir envoyé un jeune messager informer Argonda de ses dernières décisions, il retourna à l'inspection du chariot. Quand ce fut fini, il se redressa, s'essuya les mains sur son pantalon et cria un « suivant » tonitruant. Personne ne se présenta. Autour de lui, il n'y avait plus que des gardes, des messagers et des conducteurs de chariots qui attendaient d'atteler leurs bœufs et de se mettre en mouvement vers le tas de vivres et d'objets utiles que les promis avaient érigés au milieu du camp abandonné. Fail était là, supervisant le chargement. Perrine envoya tout son petit monde l'aider. Ensuite, il se retrouva seul et désœuvré. Précisément ce qu'il voulait éviter. Le vent soufflait toujours, charriant la puanteur de la mort et tout un lot de souvenirs. La furie de la bataille, l'excitation liée à chaque coup. Les Aiel étaient de grands guerriers, peut-être les meilleurs du continent. L'issue de la bataille avait tenu à un fil, et Perrine avait récolté son compte de bleu et d'entailles. Depuis, on l'avait guéri, mais ça ne changeait rien. Combattre les Aiel l'avait aidé à se sentir plus vivant. Chaque guerrier qu'il avait abattu était un maître des lances qui aurait pu avoir sa peau. Mais il avait gagné. Et pendant le massacre, il avait éprouvé une exaltation bien particulière. Celle d'agir enfin après 2 mois d'attente. Chaque pas le rapprochant de Fail, qu'il cherchait depuis si longtemps. Plus de discussion ni de préparation. L'action pure et simple. Mais c'était terminé. C'était terminé et il se sentait vide. Comme à l'époque où son père lui avait promis un cadeau très spécial pour la nuit de l'hiver. Pendant 2 mois, il avait attendu, s'acquittant de ses corvées afin de mériter le mystérieux présent. Devant le petit cheval de bois, il avait été euphorique un moment. Mais le lendemain, une étrange mélancolie s'était emparée de lui. Pas à cause du jouet, mais parce qu'il n'avait plus rien à attendre. L'excitation éteinte, il avait compris que l'anticipation était au fond bien plus importante que le cadeau. Peu après, il avait commencé à aller souvent dans la forge de Maître Luan, ne tardant pas à devenir son apprenti. Le retour de Fail le comblait de joie, ce n'était pas discutable. Mais que lui restait-il à présent? Ces fichus hommes le prenaient pour leur chef, certains allant jusqu'à le considérer comme un roi. Quand avait-il demandé ça? Chaque fois qu'il déployait les étendards, il leur ordonnait de les mettre en berne, jusqu'à ce que Fail l'ait convaincu que ces symboles pouvaient être utiles. À ses yeux, la tête de Lou n'avait toujours rien à faire dans ses rangs. Mais pouvait-il la supprimer? Ses gars en avaient besoin. Quand il la voyait, leur fierté était palpable, et il la sentait, au sens littéral du verbe. Il ne pouvait pas les décevoir. Lors de l'ultime bataille, Rand aurait besoin d'eux. Personne ne devrait manquer à l'appel. L'ultime bataille. Un type comme lui, qui refusait de commander, pouvait-il mener des hommes lors du combat le plus important de leur vie? Les couleurs tourbillonnèrent, puis devinrent une image de Rand dans ce qui semblait être un manoir de pierre, en Théar. Son vieil ami avait l'air bien sombre, comme si des pensées sinistres le tourmentaient. Même banalement assis, il avait tout d'un roi. Avec sa riche veste rouge et sa prestance, il était tout ce qu'un souverain devait être. Perrin, lui, resterait à jamais un forgeron. Il soupira, secoua la tête et chassa l'image de son esprit. Il devait rejoindre Rand. Quelque chose en lui l'exigeait. Rand avait besoin de lui. Son objectif, désormais, ce devait être de le retrouver.